L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 295e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis comme une semaine sur deux avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Et Marie qui revient en deuxième semaine. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Ça nous fait encore une fois très plaisir de te voir et je suis sûr que ça fait une fois de plus aux auditeurs très plaisir de t'entendre. On va commencer par les actualités. Tiens, une nouvelle que j'aime bien. C'est quand même dû à des événements politiques pas très joyeux arrivés il y a un an et demi, mais les prix Ig Nobel. Bon, on n'est pas forcément dans le libre, mais donc ce prix parodique. Alors, qui récompense en général alors, soit de vrais travaux scientifiques. Donc,
c'est quasiment toujours de vrais travaux.
Des fois, il y a quand même quelques prix Ig Nobel qui sont vraiment, pour le coup, des prix ironiques.
Certes,
voilà, mais il y en a quelques-uns. Mais là-bas, c'est vrai que c'est comme ça que ça a été créé. Donc, alors, j'ai pas d'exemple en tête. Pierre, tu en as peut-être, toi qui as préparé la news.
Non, je vais pas chercher à en préparer spécialement parce que ben les prix Nobel, il y en a qui ont fait des études sociologiques ou de mathématiques ou autres complètement improbables. Il y a eu des études sur les pizzas, par exemple, dans les prix Nobel. Il y a eu plein de recherches sérieuses sur les sujets ridicules. C'est ça le concept de ce prix. Moi, c'est ce qui fait que j'aime bien, parce que c'est de l'humour absurde poussé à l'extrême, et c'est même récompensé.
Alors même, je crois qu'il y a des chercheurs qui ont été récompensés d'un prix Nobel avant d'être récompensés d'un prix Nobel.
Tout à fait.
Donc ça existait. Donc voilà. Donc c'est pas forcément des gens farfelus. Ça peut sembler ridicule. Bon, on va prendre les exemples. Mais l'information, c'est que, est-ce que c'est le début d'un mouvement? On a entendu un petit peu des voix dire que, les recherches commençaient éventuellement à quitter les États-Unis parce que c'est un pays qui est, de moins en moins attirant. Un pays qui a beaucoup de moyens. Alors, il y a toujours eu, aux États-Unis, politiquement, toujours un certain climat qui a toujours été plus ou moins tendu, mais il y avait des progressistes, et moins, même dans des États, dire conservateurs, typiquement Houston est quand même une ville relativement progressiste pour le Texas, donc une situation très contrastée. Et là, la partie progressiste au sens américain, dire peut-être la moins raciste, la moins violente, commence sérieusement donc à être menacée par les conservateurs, l'extrême droite américaine, les fascistes américains, ce qui fait que on s'attend à un mouvement. Alors, on a à peine actuellement à le quantifier, mais de chercheurs vers les États-Unis. En tout cas, éventuellement une baisse d'attractivité des États-Unis. Sauf que donc là, un début, c'est le prix Ig Nobel, donc qui était décerné à Boston, donc au lieu de la recherche universitaire américaine, Harvard notamment, c'est dans la banlieue de Boston. Le MIT est à Boston, le Massachusetts Institute of Technology, où travaille d'ailleurs Richard Stallman. Donc là, c'est à Genève,
à Zurich. À Zurich désormais que le prix aura lieu, parce que donc effectivement, il y a de plus en plus de chercheurs qui n'osent plus aller aux États-Unis.
Est-ce que tu le ressens, toi qui travailles dans le milieu universitaire, Marie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on remarque? Ça en parle?
J'ai une collègue universitaire qui est américaine et qui m'a dit, si tu vas aux États-Unis, on est recommandé de prendre un feature phone, parce qu'ils vont vérifier. Elle m'a même dit, mais tu sais, tes trucs Ch'tit Dev, par exemple, pourrait être problématique.
Ch'tit Dev, mais un feature phone.
Feature phone, c'est, les téléphones à touche, le 3310, par exemple.
Un téléphone sans application, en fait.
D'accord, à ce moment-là, parce que moi, j'avais plutôt une idée. Alors, ça existe pour les cadres et les chercheurs depuis plusieurs années, cette recommandation d'aller aux États-Unis, ça ne date pas de Trump, avec des téléphones portables et des ordinateurs portables fournis par le service informatique de l'entreprise, mais vierge. Et de ce côté, récupérer vos données via un VPN. Donc, ça date pas de l'ère Trump, c'est un conseil qui est de plus en plus.
Avant, ça s'appliquait parce que c'était les principes américains d'espionnage industriel organisé par l'État, mais maintenant on est sur de l'espionnage complet de des en fait sur l'analyse des opinions des gens qui rentrent sur le territoire.
C'est
et donc
arrivé à un chercheur français.
On va beaucoup plus loin que ça maintenant. Et oui, ça arrive à des tas de gens. Donc là, les prix Nobel en réaction, on dit les gens n'osent plus venir aux États-Unis à cause de tout ça, donc on doit déménager. Et juste pour revenir à des exemples de prix Nobel, il y a eu par exemple en les prix de l'année dernière, le prix Ig Nobel de la paix a été attribué à une équipe de chercheurs pour avoir démontré que la consommation d'alcool à petite dose améliore la maîtrise d'une langue étrangère.
Ouais, bon, ça, voilà. Y a, dans les réseaux sociaux, il y a le fameux groupe hein, Alcohol Improve My Foreign Language. Bon, ça, c'est. Ça s'appelle le programme Erasmus, ça, Pierre.
C'est vrai. Mais voilà, c'est.
Est-ce que Erasmus, c'est la petite dose d'alcool, je laisserai.
En tout cas, les prix Ig Nobel, donc c'est pas forcément des prix très sérieux, mais la menace que même des gens pour quelque chose qui est pas si sérieux que ça, la menace qui est ressentie du fait d'aller aux États-Unis, elle est bien réelle.
Oui.
Meta et TikTok laissent des contenus dangereux proliférer, mais quelle surprise, Pierre.
Oui, oui, j'avoue, celle-là, elle est assez étonnante comme actualité. C'est quelque chose auquel on ne s'attendait absolument pas. Donc la particularité en fait de cette actualité, c'est que en fait, ce sont des lanceurs d'alerte en interne qui, ils ont été plus d'une douzaine, qui ont expliqué comment, en fait, les entreprises étaient au courant des risques d'exposition à du contenu violent, à du chantage, notamment du chantage sur des questions sexuelles ou du contenu terroriste, mais c'était pas la priorité. La priorité, c'était l'attention des utilisateurs. Donc, des ingénieurs de Meta, donc l'entreprise derrière Facebook, Instagram, a décrit notamment comment le management lui a demandé d'autoriser plus de contenu à borderline. Je vous ai fait les guillemets, mais je suis à la radio, donc c'est un peu difficile. Donc, du contenu borderline, y compris les théories du complot, du contenu misogyne, ce genre de choses, dans le feed de l'utilisateur afin de mieux lutter contre TikTok pour l'attention des utilisateurs. Et donc, la consigne, c'était de faire ça parce que le cours en bourse était en train de baisser.
Non.
C'est vraiment ce qu'a dit le lanceur d'alerte.
Le capitalisme boursier ferait faire des choses peu moralement recommandables à cause d'un cours en bourse.
Étonnant, hein. Et du coup, alors, je ne l'ai pas inclus dans les actualités, mais c'est quelque chose qui est connu. Malheureusement, et qui a pu être bien observé en France, que ce soit Meta, TikTok, X, ces réseaux-là, on se rend compte, effectuent une surexposition au contenu d'extrême droite. Alors, la question est de savoir si l'extrême droite a pris possession de ces réseaux de manière efficace, ou si c'est parce que ces algorithmes, intrinsèquement parce qu'ils cherchent à mettre en avant du contenu haineux, du contenu qui va provoquer des réactions et la haine envers l'autre, et les émotions négatives, de manière générale, c'est quelque chose qui fait réagir les gens, donc c'est quelque chose qui provoque des interactions, donc c'est bon pour les réseaux basés sur un modèle purement capitaliste. Effectivement.
Oui. Ce qu'on accuse beaucoup, Elon Musk, il le favorise, mais bon, l'extrême droite était déjà très présente sur Twitter avant l'achat par Elon Musk et son rebaptême en X. Facebook, bon, Zuckerberg n'est pas spécialement un gauchiste, mais n'a pas pris clairement position pour l'extrême droite. Les articles politiques, quand j'ai l'occasion de regarder les commentaires, c'est quand même les plus haineux, les plus bêtes et souvent l'extrême droite qui sont les plus visibles.
Ce qui a tout de même changé maintenant depuis l'ère Trump, c'est la fin de toute forme d'autorégulation et notamment ce qu'ils appelaient de la censure, mais qui est en fait tout simplement s'empêcher de propager du contenu purement haineux. Ça n'existe quasiment plus sur ces réseaux maintenant.
Oui, Trump qui, de plus, veut faire fermer les médias qui ne respectent pas le récit de l'armée américaine concernant la guerre en Iran.
Ça a été retoqué tout récemment.
C'est
une belle volonté.
Les gens qui, la liberté d'expression, mais uniquement la liberté d'expression à eux et pas celle des autres. Meta met fin au chiffrement de bout en bout sur sa messagerie dans Instagram. Alors, Instagram n'est pas forcément le plus utilisé pour la messagerie. C'est quand même pas son but premier, mais c'est un mauvais signal.
Voilà, c'est sans jeu de mots. Pardon.
Pas fait exprès.
Donc, tout à fait. Les messages chiffrés de bout en bout, pour rappel, le principe, c'est que lorsque vous envoyez un message à quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas sur Instagram ou sur n'importe quel réseau de messagerie, par défaut, s'il n'y a pas de chiffrement de bout en bout, vous connaissez le message, le destinataire connaît le message, mais tous ceux par qui transite le message, l'opérateur ou les opérateurs, sont au courant. Par exemple, les SMS, c'est en clair, il n'y a pas de solution. Les mails, c'est en clair. Il y a des solutions comme GPG, mais il n'y a pas grand monde qui fait du GPG de nos jours, hélas. Le chiffrement de bout en bout, la théorie, je dis bien la théorie parce que je ne sais pas à quel point l'implémentation de Meta était correcte sur ça dans Instagram, la théorie c'est que votre ordinateur a une clé pour chiffrer et le déchiffrement n'est possible que par la machine du destinataire. Et inversement, le destinataire a une clé pour chiffrer qui n'est connue que de votre machine. Et donc les messages sont chiffrés et l'opérateur au milieu, il voit juste un ensemble de données chiffrées, il ne peut rien faire. Je ne sais pas à quel point Meta ou autres ont pu conserver les clés de chiffrement. Ça a toujours été la question par rapport au chiffrement de bout en bout sur les programmes fermés. Et donc là, Meta a décidé tout simplement d'arrêter le chiffrement de bout en bout sur Instagram. Alors, ils l'ont gardé encore sur WhatsApp pour des raisons historiques. De toute façon, ils vont avoir du mal à l'enlever de WhatsApp. Surtout que ça provoquerait une sacrée levée de bouclier. Mais voilà, c'est le chiffrement de bout en bout. Ils disent que ce n'est pas assez utilisé. C'est sûr, s'il faut l'activer, en fait, ce genre de fonctionnalité, vu que c'est bon pour la vie privée, je ne comprends pas que ça ne soit pas obligatoire pour eux de l'avoir, mais en même temps, nous avons des polices, des gouvernements et autres qui disent « Non, c'est pas bien de la vie privée, c'est un problème. » Donc voilà les conséquences.
Ça peut être imposé au niveau européen. C'est le Parlement européen, peut-être la seule instance qui, à peu près... protectrice des libertés individuelles sur Internet.
Oui. À ce propos, j'avais rencontré une avocate du numérique qui m'avait dit qu'au départ, quand on avait créé les plateformes telles que Skype et tout ça ont été créées, des juristes avaient dit, est-ce qu'on protège la voix, les communications ? Parce qu'en fait, en France, par exemple, un opérateur téléphonique n'a pas le droit de vous écouter à moins qu'il y ait une décision d'un juge. Et ça, c'est dans la loi, il y a une protection. Et en fait, ils ont dit, non, on ne protège pas. Donc les entreprises américaines, elles ont le droit de vous écouter si vous passez un appel Skype, Zoom, tout ça. Mais parle de téléphone, les entreprises n'ont pas le droit de vous écouter, c'est la loi.
Donc si ça transite par les États-Unis, ils peuvent l'écouter.
Oui. Même une entreprise privée, voilà.
Ça reste quand même pour moi
Ça marche que.
En fait, il y a effectivement des classements de différentes communications, effectivement. Ouais. Le téléphone a toujours été beaucoup plus strictement régulé que ça. Et ouais. les barbouzeries, elles se basent sur ça notamment.
Je pense pas que. Pour moi, ça reste quand même couvert par le secret des communications.
Le secret des communications, mais quelle communication ? Enfin, voilà, c'est ça le problème. C'est, tu tombes sur du.
Demandons à la Cour de cassation.
Voilà. Est-ce que quelqu'un est allé demander à la Cour de cassation ? C'est ça la question. Et aujourd'hui, le flou profite à ceux qui veulent faire les écoutes.
Ouais, voilà. Donc, quand vous téléphonez, au moins, l'entreprise privée par laquelle vous téléphonez ne peut pas écouter. Quand vous...
Je sais pas si Après, avec des petites valises, on peut s'arranger pour des écoutes. Mais ça, c'est autre chose.
C'est plus difficile.
Le droit de demander à une entité française de le faire. Après.
Mais ouais.
On va écouter un premier morceau de musique. On va commencer par Marie Left Home, Ophélia. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslibre.com.
Time to come through.
C'était Marie Left Home, Ophélia. Vous écoutez l'écho des nous sur Radio Campus. Marie est là, est bien là.
Oui.
Et donc, la semaine dernière, il y a deux semaines, lors de l'émission précédente, on avait, tu avais posé les cinq questions qui ont répondu, qui ont obtenu le plus de votes. Lors de ton intervention, lors de ta conférence.
L'intervention qui s'appelait Le Libre et l'Open Source, enregistrée à Dev Lille en 2025 et qui est disponible sur YouTube.
Et on pardonne.
Oui, on me pardonne. C'est eux, c'est pas moi. Et donc, pendant la conf, on a utilisé le logiciel onlinequestions.org, qui est open source et qui permet de poser les questions et de voter les questions les plus pertinentes.
Et donc, on te laisse poser les cinq questions les plus pertinentes après les cinq premières.
D'accord. Donc pour la sixième question, c'était comment faire de l'IA ou GenIA avec de l'open source, du libre et en respectant la RGPD.
Et en fait, ça, c'est une question à tiroir qui est vachement intéressante. Donc déjà, plutôt que de s'intéresser à la question en respectant la RGPD, moi, je dirais comment le faire en respectant la loi. Déjà, c'est plus rigolo quand on commence à parler de respecter la loi de manière générale. Et en fait, il y a deux éléments. On va en exclure un très rapidement. Comment faire de l'IA, du GenIA avec de l'open source, du libre? Quasiment tout ce qu'on peut faire avec une IA, on peut le faire avec un logiciel qui va être à minima open source. Par exemple, si on veut faire de la reconnaissance vocale, il va y avoir Whisper. Si on veut utiliser des LLM, il va y avoir Ollama. Il y en a plein d'autres. Tout ça, ça existe, ça fonctionne et c'est basé sur de l'open source ou du libre. Là où on commence à tomber sur un domaine vachement plus rigolo qu'on a déjà abordé dans cette émission, qu'est-ce qui fait fonctionner? Je vais prendre l'exemple parce que je l'ai utilisé, j'utilise ça pour mon répondeur. Qu'est-ce qui fait fonctionner une IA pour la reconnaissance vocale? Il faut un logiciel, alors moi donc j'ai pris whisper.cpp, et il lui faut un modèle. Et c'est ça qui devient beaucoup plus rigolo. Comment faire pour... Est-ce que le modèle a une licence? Est-ce qu'un modèle c'est libre ou non? Je sais pas. Honnêtement, on est sur un flou artistique grandiose. Est-ce qu'un logiciel qui utilise un modèle de 8, 10, 30, 100 gigaoctets qui a été généré par une entreprise en allant récupérer des données partout sur Internet sans respecter la moindre licence, est-ce que ce modèle est utilisable légalement? Est-ce que ce modèle peut être utile? Est-ce que l'utilisation de ce modèle dans un logiciel libre, est-ce qu'on peut considérer qu'on peut encore modifier le logiciel libre en comprenant ce qu'on est en train d'y faire? J'ai envie de répondre que on est plutôt sur le non. On a la possibilité de modifier le logiciel, on modifie ce que fait le logiciel, oui, mais on ne peut pas comprendre ce qu'il fait puisque les décisions sont prises sur la base d'un moteur complètement opaque, qui est le modèle. Et on ne maîtrise pas la façon dont il a été généré.
C'est intéressant ce que tu dis, Pierre, parce que autant là sur les LLM, ceux qui génèrent du contenu, il y a clairement une utilisation pour republication. Donc là, il y a clairement une violation du droit d'auteur. Par contre, là, on utilise du contenu pour reconnaître d'autres contenus. Tu vois, c'est là qui est...
Alors, je vais prendre toujours sur mon répondeur. Alors, je vais regarder, normalement, je les ai effacés au fur et à mesure parce que mon répondeur, du coup, m'envoie c'est un petit programme que j'ai qui récupère les fichiers audio de ma messagerie, de la messagerie de mon opérateur, qui les décode et qui derrière me les envoie. Voilà, j'en ai un, c'est parfait. Qui derrière me les envoie par messagerie instantanée. Et donc, voilà, j'ai reçu un message. Oui, bonjour monsieur, c'est machin, machin. Ouais, bonne journée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Personne ne m'a dit ça au téléphone. Ce qui s'est passé, c'est que le moteur de reconnaissance vocale est basé sur, notamment, la correspondance entre la voix et les sous-titres. Et donc, ils ont scrappé des données en masse. Des données canadiennes, pour le coup. Et donc, ils ont scrappé le fait qu'à la fin, lorsqu'il n'y a plus de son, il n'y a plus de voix, ils affichent le message « Sous-titrage Société Radio-Canada ».
Et ça ressemble
Ils ont piqué les données de Société Radio-Canada pour construire leur modèle. Avaient-ils cet accord pour le faire? Je ne sais pas.
Ah, là, ils se sont vendus. Et toutes nos excuses, d'ailleurs, à nos auditeurs québécois pour notre tentative pourrie de représentation.
Ouais, clairement. Beaucoup de respect pour le québécois. J'adore cette variante du français, mais voilà, je suis pas très bon là-dedans. Toujours est-il que c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il existe de solution légale pour faire de l'IA si on considère le respect du copyright comme étant un impératif moral et légal. Ça ne semble plus être le cas. On semble être entré tranquillou bilou dans un monde où tout le monde a le droit de pirater tant que tout le monde est une entreprise à plusieurs milliards de dollars de valorisation boursière.
Mais là, tu touches presque la question éthique. Et là, on a une question sur le RGPD. Donc, c'est quelqu'un qui demande, en gros, est-ce que je vais me faire taper sur les doigts si j'ai une entreprise et que j'utilise une GenIA, et comment je fais pour éviter cela ? Parce que là, pour l'instant, on ne tape pas les doigts des entreprises à cause du copyright, machin, truc chouette. Parce que
alors qu'on devrait.
La question, c'est qui va se faire taper par le RGPD ? Moi, c'est voilà. celui qui a scrappé les données se fait taper par le RGPD. Alors, est-ce que ça existe du recel d'utilisation, d'irrespect du RGPD ?
Je ne suis pas d'accord. Celui qui a scrappé les données, je ne pense pas qu'il soit en tort vis-à-vis du RGPD. Celui qui est en tort, c'est celui qui a publié les données initialement. Alors, sans qu'elle n'aurait dû l'être. Si la donnée a été publiée...
Là, tu prends l'exemple, là, ça va finir comme sur RMC, là, cette émission. On va débattre.
Ben non, on peut débattre. Il faut débattre sur ce genre de questions, c'est intéressant.
Là, pour le coup, alors c'est un exemple, c'est que tu as plein de sources. Dans le cadre, donc ça vient de Radio-Canada, ça vient d'un reportage, on considère, il y a une présomption quand même que les gens qui ont parlé dans le reportage, alors je ne connais pas du tout la législation canadienne, mais étaient volontaires pour parler. En tout cas, il y a un respect du droit à l'image. Donc, ce n'est pas la société Radio-Canada qui a publié, je ne sais pas, sur son site, elle a fait son travail journalistique. Il n'y a pas d'entorse au RGPD, hein, ou son équivalent canadien.
L'entorse au droit à l'image n'est pas une entorse au RGPD. C'est une entorse au droit à l'image, c'est pas la même règle. Le RGPD, le principe est simple.
Le RGPD, c'est la vie privée, et là il s'agit...
On va juste reprendre la base du RGPD, c'est pour ça, dans cette question, le RGPD, je trouve, n'a pas forcément de sens. C'est la question légale est plus importante. Le RGPD, il y a deux facteurs dans lesquels le RGPD pourrait rentrer en compte par rapport à l'IA. Il y a soit des données privées ont été ingérées par les modèles et sont ressorties par une hallucination ou autre. Ça, ce cas-là, le problème, c'est pourquoi des données privées sensibles ont été publiées et rendues disponibles suffisamment, de manière suffisamment ouverte pour que l'IA puisse les cracher. Est-ce que c'est une IA qui a été entraînée, par exemple, sur les données privées collectées par Google, Apple, Facebook ou autre ? Dans ce cas, effectivement, il y a un vrai problème de RGPD qui n'a pas été respecté par ces entreprises. Si c'est, par contre, un modèle de OpenAI qui a réussi à pomper des données sur je ne sais quelle base qu'ils ont récupérées sur tel site parce qu'elle a été diffusée sur tel site par telle personne qui aurait jamais dû la diffuser, OpenAI, son tort, c'est de rediffuser une donnée à laquelle il n'avait pas à avoir accès, mais il ne me semble pas que ça soit une entorse au RGPD. La publication de cette donnée à la base est une entorse. Donc, pour moi, on n'est pas sur le même problème. Par contre, là où on est sur quelque chose de plus rigolo, on a une IA qui fonctionne sur l'ensemble des données d'une entreprise, qui a accès à toutes les données d'une entreprise, parce qu'on s'est dit, tiens, c'est une bonne idée. Indice, non. Donc, on a une IA qui a accès à toutes les données d'une entreprise, et puis, ben, par un chatbot, on arrive à lui faire cracher les données d'une entreprise. Là, l'entreprise est en tort. Là, l'entreprise a commis une négligence grave en donnant l'accès sans contrôle, sans rien, l'accès à toutes les données à une IA, sans justification. Le RGPD, le principe est simple. Vous pouvez faire ce que vous voulez tant que c'est justifié. C'est simple, dit comme ça. Ouais. Mais justifier, c'est compliqué. Et en fait, il faut juste pas faire n'importe quoi. J'ai bossé dans une boîte, le respect du RGPD, ça a été un non-événement lorsque le RGPD a été introduit, parce que il faut une bannière pour les cookies... Non nécessaire, ben, du coup on n'a pas besoin de bannir un cookie, on ne met pas de cookie, on n'en a pas besoin. Faut des bannières pour prévenir quand on met des trackers publicitaires, on n'en met pas.
Si vous êtes intéressé par ces questions du RGPD, il y a un excellent conférence de Benjamin Bayard qui s'appelle Privacy comme business model. Et en plus, Benjamin Bayard a une voix merveilleuse pour s'endormir, c'est magnifique. Et c'est sur Bitube d'ailleurs.
S'endormez pas trop tôt, après vous allez rater le message de Benjamin Bayard et ça serait vraiment dommage.
Voilà.
Harry, pose-nous la question suivante.
La question suivante. Est-ce que libre égale gratuit ?
Non.
Voilà. c'était rapide.
Oui, c'est...
non, ben...
On peut vendre du logiciel libre, on l'avait dit lors de l'émission précédente, c'est une... Voilà, on va rappeler les quatre libertés du logiciel libre, liberté d'utiliser sans consent, contraintes, sauf les contraintes légales, liberté d'étudier le logiciel, liberté de modifier et de redistribuer, à titre gratuit ou à titre payant. Et le fait est que, à partir du moment où vous avez reçu le logiciel, vous avez le droit de le redistribuer comme vous voulez, en général gratuitement si vous n'avez rien fait, vous pouvez, et en général de manière payante. Alors c'est un des modèles du logiciel libre, c'est voilà, on vous fait à sur mesure des modifications et on fait payer pour.
Voilà, on peut. Par contre, libre égal gratuit. Techniquement, pour le particulier, oui, c'est, oui, effectivement, on peut dire ça. Moi, je peux récupérer n'importe quel logiciel libre et l'utiliser. Maintenant, est-ce que c'est gratuit ? En fait, gratuit, ça dépend de quel sens on donne au mot gratuit. Mettons, Non, mais.
Qu'est-ce que le gratuit ?
Voilà, non. Qu'est-ce que le gratuit ? Non, mais ça.
L'émission ne dure qu'une heure.
Oui, mais ça va être extrêmement court. Gratuit, si je dois passer une heure parce que ben c'est compliqué, parce que c'est pas clé en main, si je dois passer une heure de mon temps, ben selon comment je me considère, ça peut valoir 50 centimes, ça peut valoir 1000 euros ou ça peut valoir rien du tout parce que je me suis amusé. Moi, je construis un avion sur mon temps libre, ça va me prendre des milliers d'heures, mais ce temps-là est valorisé à zéro parce que je m'amuse.
L'illustration est vraie d'ailleurs, Pierre construit vraiment un avion dans son temps libre.
Non mais... Et donc, la question de libre égale gratuit, gratuit pécuniairement, mais certains logiciels peuvent être plus compliqués que d'autres à prendre en main, à installer, à configurer, à déployer. Mettons, est-ce que c'est gratuit WordPress? Bon, c'est pas très compliqué à déployer un WordPress sur votre ordinateur. Public, qui est utilisé par certaines collectivités territoriales et qui est une suite logicielle beaucoup plus vaste et complexe, c'est pas facile à installer. Ça a été mon métier. C'est pas facile à installer, c'est largement justifié que des entreprises vous le vendent.
Ils vous vendent l'intégration.
L'intégration. Vous pouvez toujours faire gratuitement, il n'y a pas de problème, mais gratuitement, mais ça va avoir tout de même un coût non financier, ça va avoir un coût d'investissement en temps.
Un peu comme les travaux, quoi.
Donc, exactement.
S'il y a accès au code source, mais seulement à travers un paywall, c'est pas considéré comme libre. Ça ne peut pas être libre.
Alors vous avez le droit. Attention, le logiciel libre, le code source doit être redistribué avec le logiciel. Si vous le distribuez, la distribution du logiciel est. C'est un droit, pas une obligation. C'est-à-dire, si tu vends le logiciel, tu dois donner accès aux sources. Mais voilà, c'est-à-dire tu n'es pas censé donner le code à n'importe qui te le demande. C'est toi, si tu le distribues, si tu le donnes, si tu le vends, tu dois le donner avec le code.
D'accord, donc je n'ai pas obligation d'afficher le code en grand partout. Si je peux encore dire, j'ai fait un logiciel libre, même si vous devez acheter le CD-ROM pour...
Tu prends un logiciel libre. Vends une modification sur mesure à un client, tu dois le code source uniquement à ce client.
D'accord, donc ça peut être encore ça.
Mais tu n'es pas obligé de distribuer à tout le monde le code source.
Mais le client, par contre, a le droit de redistribuer.
Et le client, lui, a le droit de le redistribuer, effectivement.
Ah, et gratuitement.
Tout à fait, c'est son choix.
C'est son choix. D'accord. Après, il a payé.
Voilà, c'est le modèle économique, c'est celui-là.
D'accord. Je pense que ça répond bien à la question. Alors, prochaine question avec 28 voix. Les deux premières, c'était 32 et 30. Par où commencer pour contribuer à de l'open source ?
Les rapports de bugs ?
Les rapports de bugs, c'est ce qu'il y a de mieux et tout dépend du type de contribution. Il y a plein de contributions qui sont possibles.
D'ailleurs, on en parlait lors de l'émission précédente, ce qui est aussi très précieux parce que qui est une compétence plus rare dans le monde du logiciel libre, c'est les compétences, j'allais dire annexes, mais non,
l'ergonomie, le design, la traduction.
Ouais.
Tout ça. Et en fait, moi j'ai envie de dire, par où commencer par contribuer ? Contribuer par quelque chose qu'on sait faire. C'est tout con, mais en fait, c'est un prérequis de base. Et contribuer par quelque chose qui nous sert. Oui. Qui a un vrai intérêt. Par exemple, je pourrais très bien, moi, m'amuser à contribuer à un logiciel... qu'est-ce que je pourrais prendre ? Un logiciel... un truc dont je ne me servirais vraiment pas. Un logiciel d'édition de vidéo. Je pourrais contribuer à ce genre de logiciel, mais je ne vais jamais m'en servir. Donc, ça ne va pas me motiver, et je vais possiblement faire des contributions qui n'ont aucun sens.
Et pour les débutantes chez débutants, ça se fait où, un rapport de bug ?
En général, la plupart des logiciels libres, dans leur menu aide, ont signalé des problèmes ou signalé un rapport de bug ou ce genre de choses.
Alors, les distributions courantes, maintenant, vous proposent d'en faire un. Déjà, tout fait, quand le logiciel plante, ils proposent
tout à fait
de faire le rapport de bug du plantage qui vient d'arriver.
Donc, pas besoin d'aller sur un Git quelque chose avec un compte.
Alors, GitHub, malheureusement, de nombreux projets de moins grande envergure sont hébergés sur GitHub et demandent du coup un compte GitHub. La plupart du temps, ils demandent un compte. Dans tous les cas, et ça c'est normal, c'est parce qu'un rapport de bug c'est pas juste ça a planté, démerdez-vous.
Et donnez des logs avec.
Ou pire, c'est démerdez-vous, bande de nazes, véridique. Ça arrive. Et donc, non, il y a un rapport de bug, il y a des interactions avec vous, et c'est normal. C'est, on vous demande qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui s'est passé, quel fichier, etc. C'est normal. Et donc, c'est pour ça, un rapport de bug, ouvrez un compte, c'est normal, on ne va pas vous spammer pour ça.
Et parfois, ça m'est arrivé la première fois que j'ai parlé, c'était pour Mycroft. J'avais reporté un petit bug, quelque chose, les gars étaient très sympas, ou les filles, je ne sais pas, étaient très sympas.
Les gens
étaient, tout contents. J'avais l'impression d'un, ils étaient contents d'avoir du feedback en fait, d'avoir que c'était utilisé et qu'on prenait le soin de donner un vrai feedback avec des détails, un petit screenshot, tout ça.
Un rapport de bug, ça vaut une fortune. C'est excellent, un rapport de bug, vraiment. C'est pas une blague. Mmh. On pense que enfin, c'est évident que ça, c'est un bug. Ils doivent être au courant, bande de feignasses. Mais non, pensez pas que c'est des feignasses. C'est juste qu'ils sont tellement dedans, ils le voient plus.
On est l'emmerdeur de service aussi.
Non, mais les grosses boîtes payent quand même les phases, en fait.
Payées.
Ouais, mais ça coûte cher.
Ça coûtait cher à l'époque où ça existait. Quand on voit Windows 11 par rapport à Windows 95, je suis désolé, ça n'existe plus chez certaines entreprises.
La Windows 95, c'est pas vraiment une référence en termes de stabilité.
Ouais. Comment convaincre nos employeurs de financer l'open source ?
On va faire aussi, je pense qu'elle est un peu liée à la suivante. Les trois questions suivantes sont un peu liées. J'aimerais qu'on les lise toutes d'abord.
Je vais vous lire les trois questions suivantes. Avec 19 voix. Pérennité des logiciels libres sans modèle économique ? Point d'interrogation. Et enfin, quel intérêt pour une entreprise d'open source
De libérer son code.
N'est-ce pas prendre le risque de donner des armes à la concurrence ?
Alors, au final, ces trois questions sont assez liées à la problématique qui revient tout le temps du modèle économique du logiciel libre et de l'open source. Déjà, on fusionne les deux, même si je déteste le terme d'open source parce qu'il est très utile en fait pour éliminer l'aspect philosophique du libre.
On dit open pour pas dire libre.
On dit, voilà, mais c'est bien, ça cache un sens. Ouais. C'est pour ça que certains adorent le open source en mode licence BSD ou MIT, parce que la licence GPL, c'est pas bien. Et on n'est pas sur un combat des années 90 ou 2000. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, en entreprise, j'étais face à des gens qui tenaient exactement ce discours-là. Ouais. Et donc, comment convaincre les employeurs de financer l'open source ? La pérennité du modèle économique ? Ben justement, le modèle économique... Aujourd'hui, il n'y a pas un modèle économique pour tout l'open source ou pour tout le libre. Il y a plein de solutions. Le problème, c'est que, effectivement, il faut se rendre compte, tout a un coût. Est-ce qu'on accepte que le monde fonctionne sans payer ce qui fait tourner le monde ? En fait, convaincre les employeurs de financer le libre, pour les convaincre, le plus simple, c'est de leur donner l'impact que ça va avoir. Déjà, ça a un impact en termes d'estime pour l'entreprise et d'ego, on va dire, de dire on a contribué de manière positive. Alors, réussir à faire passer ça auprès de capitalistes, bonjour, bonne chance.
Ça peut être le capitaliste aussi, un service relations publiques.
Hein. Voilà, ça peut être pour le service relations publiques. Ça marche, parce que financer le libre, ça peut se traduire en beau logo mis en avant sur des sites web, mine de rien.
Ça peut être une espèce de libre washing.
Exactement. Ça peut être aussi pour influencer le logiciel libre en question. Parce que si on contribue de l'argent, on peut dire... corriger ces bugs-là ou ajouter ces fonctionnalités qui nous arrangent.
Sur des logiciels qui sont très utilisés. Alors ça, plutôt concerner des logiciels qui sont dans la machinerie. Là, ça va être OpenSSL, ce genre de choses. Ça va être des logiciels où...
Non, tu peux financer du LibreOffice, par exemple, comme ça. En disant, mes équipes...
J'y vois l'intérêt, Pierre.
C'est plus dur, LibreOffice. LibreOffice est très dur à financer. Il est très, très dur à financer. Et sur l'intérêt de libérer son code, alors... Honnêtement, c'est très compliqué de libérer son code, ça c'est un autre débat, parce qu'il faut prouver qu'on a la propriété intellectuelle de l'ensemble du code. Bonjour, ça va être compliqué, surtout avec l'époque de l'IA. Bref, on va éviter tout cet aspect-là, on va considérer que l'entreprise est au courant de ce qu'elle a fait et ce que ses salariés ont fait. Indice, ils sont pas au courant. Donc, n'est-ce pas prendre le risque de donner les armes à la concurrence ? Eh bien là, on tombe sur un problème hyper courant que j'ai vu dans le monde de l'informatique et qu'on trouve partout, c'est une petite phrase... qui a un sens que je déteste et que je vomis, c'est « personne n'est irremplaçable ». Cette phrase, c'est une horreur. Parce qu'en fait, c'est complètement faux. Lorsque l'on prend un logiciel, quand on prend le code d'un logiciel, le code a de la valeur, mais vous ne pouvez pas supprimer la valeur qui a été enregistrée dans le cerveau de vos salariés, qui ont manipulé ce code, qui l'ont écrit, qui l'ont conçu, qui l'ont fait évoluer, qui savent dire pourquoi ce choix a été fait. Ça, c'est une information qui n'est pas écrite dans le code. Ça, c'est des choses qui ne sont pas présentes. Alors, en libérant le code, est-ce que vous donnez des armes à la concurrence ? Oui, ça donne des éléments. Mais ça fait la supposition que vous n'êtes pas capable de défendre votre travail. Ça fait la supposition que vous n'avez aucune fierté, finalement, dans votre travail, de supposer que, ben oui, le libérer, c'est donner toutes les armes à la concurrence. Moi, je suis en train de développer un projet actuellement. Alors, je ne sais pas si je pourrais le mettre en logiciel libre pour des raisons purement légales. Je suis en train de creuser ce point-là, mais je n'aurai aucune crainte à le mettre en libre parce que je considère que la valeur de ce code, ça va être mon expertise sur le projet et non pas le code lui-même. Le code lui-même, je suis certain qu'une IA pourrait pondre le même code en lui donnant les bonnes consignes. L'IA, pour moi, c'est la meilleure raison pour maintenant de rendre libre du code. Quel est l'intérêt ? Puisque une IA bien orientée pourra repondre le même code parce que il y aura moyen d'y mettre suffisamment de pognon et ça va être vachement plus simple que d'embaucher une armée de développeurs.
Et j'aurais peut-être un argument en plus qui est que dans le milieu du libre, c'est un milieu de passionnés. Alors, j'aime pas du tout ce mot. Les entreprises adorent les passionnés parce que ça permet d'avoir...
Des employés corvéables, merci.
Mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes plus seniors, elles vont regarder beaucoup l'impact de leur travail, le sens de leur travail. Donc, ça peut aussi intéresser des ingénieurs seniors qui ont envie qu'il y ait un peu plus de sens dans ce qu'ils développent.
Voilà. Effectivement, cet aspect-là, même pour les salariés en interne, c'est intéressant. Après, je ne cache pas, il y a d'autres aspects économiques qu'on n'a pas abordés. En fait, la valorisation de la propriété intellectuelle dans l'entreprise est largement impactée si c'est du logiciel libre. Donc ça pose des tas de problèmes, il y a des tas de questions. Mais là, on rentre sur des problématiques, même moi, je ne les maîtrise pas. C'est des problématiques de valorisation d'entreprise, ce n'est pas mon monde. Mais... ça en fait partie des sujets qu'on pourra aborder là-dessus.
Merci Pierre pour tes réponses. Marie pour tes questions. Est-ce que...
Alors, tu en as encore... est-ce qu'on peut passer la dernière...
Allez, une bonus.
Une petite bonus. C'était... Quel intérêt, l'open source code non, bah non, en fait, non. C'est... Ah non, non. Pérennité de logiciel libre.
Non, on les a abordés, il me semble.
On les a abordés. Non, c'est bon, on a fait les 6.
Oui, il me semble.
Non, c'est bon, pardon.
Est-ce que tu es satisfaite des réponses que tu as obtenues de nous ?
Oui. Oui.
J'espère. Les auditeurs, êtes-vous, auditrices, êtes-vous satisfaits ?
Oui.
Je ne pas dire qui me dit mot consent parce que ça peut être interprété de manière assez tendancieuse. Des actualités de la digitalisation, c'est après un deuxième morceau de musique. Nous allons écouter Chin Ferry, Waking Crew. Vous écoutez les codes des Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio du Mac Terrestre et campuslille.com. We'll be right back. C'était Sin Fury, Requiem Crew. Vous écoutez les codes avec nous sur Radio Campus. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégeekalisation, Pierre, électronique et capitalisme de l'utilisation de la poubelle.
Tout à fait. J'ai
réussi. C'est trouvé ces titres quand même, Pierre.
J'ai trouvé deux sujets rigolos que je vais mêler. En même temps, on va parler de déchets neufs. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose, on n'y pense pas, mais dans notre monde industriel, on produit des déchets. On fabrique des déchets, mais je veux dire vraiment des choses, elles sortent de l'usine dans la poubelle, oui. Directement.
Et donc, c'est ce qui passe pas le contrôle qualité.
Exactement, on va commencer d'abord par le contrôle qualité, on va parler d'un autre cas après. On va parler contrôle qualité, on va parler du pourquoi je pense que tous les fabricants d'ordinateurs portables devraient être en train de faire dans leurs pantalons en ce moment. On va parler d'Apple et du MacBook Neo. Pour une fois, je vais dire du bien d'Apple, ça me fait bizarre, mais ils ont fait quelque chose que la plupart des autres fabricants sont bien en peine de faire parce que Apple bénéficie de ce qu'on appelle l'intégration verticale. Ils maîtrisent la fabrication des puces, de l'ordinateur et du système d'exploitation. Ça leur procure un certain avantage.
Une fiabilité quand même plus importante que Microsoft lors de leurs grandes heures.
Voilà. Et donc, quoi qu'ils ont fait pour le MacBook Neo, parce que c'est vrai, c'est la première fois qu'Apple sort un ordinateur portable à aussi bas prix. Et surtout, je pense...
700 balles quand même, hein, le bas prix. C'est cher maintenant.
C'est cher.
C'était pas cher il y a 15 ans pour un ordinateur, mais.
Honnêtement, tu vas avoir bonne chance pour trouver un concurrent avec ce niveau de performance.
Oui, non, mais ça reste quand même.
Voilà. Ben, ils sont dans le milieu de gamme, voire le bas de gamme quand tu commences à voir l'augmentation du prix du matériel. Hein. Attention. Bon, mais donc, qu'est-ce qu'ils ont fait qui est intéressant là-dedans? En fait, lorsqu'on fabrique des puces, on fabrique des wafers qui sont des grandes plaques sur lesquelles il y a toutes les puces, tout un ensemble de puces, quelques centaines. Et c'est ça qu'on va transformer en puce derrière. Je vous passe sur tous les détails du processus. Donc sur une plaque, on va fabriquer, mettons, 1000 puces. Sur ces 1000 puces, ben, il va y avoir des déchets. Il va y en avoir où ? Ah merde ! Mettons, on fabrique sur une plaque, on fabrique des processeurs, on va se placer il y a une quinzaine d'années, on fabrique des processeurs à 4 cœurs. Zut ! Ben, en fait, là, on se rend compte qu'on a quand même pas mal sur lesquels il y a un cœur qui est défaillant. Il y en a pas mal sur lesquels deux cœurs sont défaillants. Et ben, ceux-là, on les vend comme des processeurs à deux cœurs ou des processeurs à trois cœurs. Et comme ça, on a fabriqué une gamme. On a des processeurs bas de gamme à deux cœurs qui sont en fait ben, la majorité des processeurs fabriqués parce que ben, c'est pas parfait, il y a des échecs. Quatre cœurs, c'est le haut de gamme, c'est le 10% qui est gravé à la perfection et trois cœurs, ben, c'est ce qu'il y a entre les deux.
Ce serait presque une démarche écologique.
C'est presque une démarche écologique. Tout à fait. En fait, c'est juste la réalité de la fabrication des processeurs. Et donc là, ce qu'a fait Apple, ce qui est assez intelligent, c'est qu'ils ont leurs puces pour téléphone portable, pour leurs iPhones, les A, je sais pas à combien ils en sont maintenant, et ben ils avaient quand même un certain nombre de déchets parce que ben, la partie, notamment processeur graphique, était assez importante sur la puce, et statistiquement, c'est la zone la plus grande, donc c'est là où il pouvait y avoir des erreurs, et du coup, ils en jetaient une partie. Et ils se sont dit, ah, on va les mettre de côté. Et ils les ont mis de côté pendant un certain temps, pendant tout le temps de fabrication de je sais plus quel modèle d'iPhone, c'est celui d'il y a 2 ans, je crois. Et ils ont dit, bon, eh ben on va faire un PC portable avec ça. Il suffit juste de couper le cœur, enfin un ou deux cœurs qui sont incorrects, et ça nous fait un PC portable avec des performances plus que raisonnables. Parce que derrière, ben, ils font un système d'exploitation qui est conçu pour leur matériel, et les logiciels qui commencent à être adaptés pour ça. Bon choix de réutilisation du matériel. Et là-dessus, la plupart des concurrents du monde du PC vont avoir du mal à lutter. Maintenant, mettons-nous dans l'autre cas extrême du bien moins... Du capitaliste bien dégueulasse. Alexandre, j'ai besoin que tu incarnes le capitaliste bien dégueulasse pour moi, s'il te plaît.
Je suis là...
Donc...
Les jambes croisées avec mon cigare.
Voilà, exactement. Donc, Alexandre... Je pense
combien
qu'il y a...
Importe, Pierre.
Pardon ?
C'est quoi ce qu'ils ont fait à faire de l'émission, Pierre ?
Alors,
on est
donc,
en baisse.
Nous avons repéré avec notre...
100, Pierre.
Nous avons repéré avec notre étude de marché qu'il y a un marché à prendre sur le modèle des téléphones portables pour seniors. Allons-y gaiement. Donc, je vous propose... Alors, comment on peut faire ? Parce que les seniors, ouais, ils vont pas dépenser sur les applications, on va pas pouvoir les tracer, et puis il leur faut quelque chose de simple. Donc, on va prendre... Bah on va prendre un écran, en plus c'est bien, on met un écran qui n'est pas tactile, on met l'écran assez grand, de toute façon on va mettre le texte en gros, hein, donc on n'a pas besoin d'une bonne résolution, vraiment on prend l'écran à 30 centimes là. Allez, on leur met un petit processeur, On va prendre le microcontrôleur bas de gamme, là. On va prendre un STM32, c'est 30 centimes le processeur quand on achète un par palette. Nickel. Par contre, il faut la téléphonie.
Bon. Il faut une puce GSM. Par GSM. UMTS, LTE.
Mais enfin, pourquoi leur vendre une puce LTE qui coûterait 10 fois plus cher? On leur met une petite puce GSM.
Ah, ça va être embêtant, la puce GSM, d'ici quelques temps.
Mais enfin, appelons Jean-Michel au marketing. Il va nous arranger ça. Jean-Michel? Ah, et Jean-Michel, il a trouvé la solution. Il vend son téléphone portable. Et il écrit téléphone portable compatible tous opérateurs, sauf Free Mobile.
Ah bah, bientôt les autres aussi.
Non, Jean-Michel, il a bien vendu son truc. Tout opérateur, sauf Free Mobile. Et si tu vas regarder... Parce que ça, par contre, ça, c'est une remarque qu'on me fait souvent. Et j'ai envie de taper des fois les gens quand ils me disent ça, parce que ça m'énerve. On me reproche souvent de considérer que la technique doit être plus mise en avant. Et que, mais non, faut arrêter de parler technique aux gens.
Ben, mais non, il faut que les gens ne comprennent pas ce qu'on leur vend.
Je suis pas d'accord, justement. Voilà, les gens, on a besoin d'exposer suffisamment de techniques pour que les gens puissent comprendre.
Si.
Et voilà, toi, tu as tout de suite parlé de GSM, UMTS, LTE, etc. Je suis désolé, hein, UMTS, moi, j'avais oublié que c'était son nom, hein, à la 3G. Je rappelle, les générations de téléphones portables, ça a eu un sens. On en parlait au début, hein, la deuxième, la troisième, la quatrième génération, on en parle un peu moins maintenant, on parle juste de 5G. Ça a un sens technique grave, c'est que les protocoles en question derrière changent. Un téléphone qui parle 2G ne sait pas parler 3G, 4G ou 5G. Et à la fin de l'année, la 2G, c'est fini. À la fin de l'année prochaine, la 3G, c'est fini. Tout téléphone vendu aujourd'hui qui n'est pas 4G est à mettre à la poubelle avant la fin de l'année prochaine.
J'ai un avant-goût de ça parce que j'habite en Suède et ils l'ont déjà fait. En décembre, ça a été la panique. Concrètement, ça veut dire que mon téléphone, un OnePlus 5 qui est 2021 ou 2020, je ne sais plus, du jour au lendemain, vous ne pouvez plus appeler, vous ne pouvez plus recevoir d'appel. Vous appelez votre opérateur téléphonique, il vous dit...
2020, il n'y a pas la 4G.
Non, c'est même pas ça, je suis même pas d'accord avec cette explication-là. C'est plus dégueulasse que ça encore. Oui. C'est parce que ton téléphone n'est pas sur la liste blanche des modèles qui ont été testés par l'opérateur.
Tout à fait. Et...
Les opérateurs ont désormais des listes blanches de téléphones portables autorisés sur leur réseau. Si ton modèle n'est pas dans la liste blanche, c'est terminé. Tu n'as pas accès à la VoLTE. Et donc demain, en fait... Je vais essayer de faire très rapidement l'explication. La 4G, il y a deux fonctionnements. Le fonctionnement pour les appels en mode moderne, le VoLTE. Où en gros, lorsque vous appelez, votre téléphone va garder la communication Internet active et en fait va transférer votre voix par-dessus Internet. Par opposition au mode traditionnel d'appel, où le téléphone repasse en 2G le temps de l'appel, ça se voit sur les téléchargements. Si vous faites un téléchargement pendant que vous passez un appel, le téléchargement est littéralement mis en pause le temps de l'appel, parce que le téléphone coupe les données pour ne faire que de la voix. C'est le fonctionnement classique. On le repère à la qualité du son, mais en fait, c'est très difficile à voir et à sentir. Moi, j'ai un téléphone qui est 5G. J'en ai déjà parlé dans cette émission. J'ai un téléphone qui est 5G, qui est compatible 4G, compatible VoLTE. D'ici la fin 2027, soit mon téléphone lâche d'ici là et je le remplace, soit je change d'opérateur parce que de tous les opérateurs en France, il n'y en a qu'un seul qui a dénié mettre mon téléphone sur la liste blanche. Tous les autres, ah bah non, on l'a mis sur liste noire. Point. Ce n'est pas une raison technique, c'est une raison financière. On ne veut pas faire l'effort de s'embêter à gérer ce modèle. Demain, le passage à la 4G effectif, donc avec la fermeture des 2G et 3G, va avoir pour conséquence, suite au comportement de certains, de mettre des personnes vulnérables dans la merde. On va avoir des personnes âgées, des personnes fragiles, qui n'auront plus la possibilité de communiquer avec leur téléphone, qui ne recevront plus d'appels, donc qui ne seront peut-être même pas au courant que leur téléphone ne fonctionne plus, qui ne comprendront pas. Et donc, on va peut-être avoir des accidents, des personnes qui seront qui vont mourir, juste parce que on leur a vendu un téléphone sans leur dire « Non, 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 on a fait des petites économies, on vous l'a vendu à 150 balles, mais vous inquiétez pas, on pouvait économiser 50 centimes sur le modèle, on les a économisés. Vous allez mourir. C'est pas notre problème. On a fait notre commerce, on a fait notre business. On n'avait aucune contrainte de vous vendre quelque chose. »
On va avoir le même problème d'ailleurs avec la fin des paires cuivres. du réseau,
ça,
du réseau.
Sauf que non, ça, c'est beaucoup mieux pris en charge. On envoie des courriers physiques aux gens, puisqu'on sait où ils sont. Alors que là, les opérateurs n'auront même pas forcément l'obligation de prévenir tout le monde. Moi, j'attends toujours, moi, mon opérateur m'envoie tous les mois un message pour me dire « Hey, la VOLTE, c'est trop cool, activez-la. » Alors qu'ils me narguent, puisqu'ils savent très bien que mon téléphone n'est pas autorisé par leur réseau sur leur décision.
Ça mérite un petit courrier à l'ARCEP.
Ouais, mais je suis déjà en train de discuter avec l'ARCEP sur d'autres sujets. Je ferai celui-là après.
C'était bien volontaire. Pierre, une dernière actualité à laquelle tu tenais avant de rendre l'antenne.
Oui, on va parler de Google à nous un petit peu. Donc Google qui a décidé, on en avait parlé il y a quelques mois, Google voulait bloquer l'installation d'applications en dehors du Play Store. Alors initialement, il voulait demander à ce que tous les développeurs Android aient un compte vérifié avec tout un processus de vérification, etc. Ça a gueulé. À raison. Et du coup, Google a dit, bon, on a décidé de mettre en place un processus d'installation avancée pour permettre l'installation d'applications en dehors du Play Store. Donc, c'est assez simple. Attention, accrochez-vous. Donc, désormais, pour installer une application en dehors du Play Store, fonctionnement actuel, hein, il me semble qu'il faut activer le mode développeur et c'est tout. Le nouveau fonctionnement. Activer le mode développeur. Confirmez qu'on n'est pas en train de vous demander d'activer le mode développeur. Redémarrer le téléphone et se réauthentifier. Attendre une période d'au moins 24 heures et se reconnecter. Ensuite, installer l'application en acceptant un avertissement comme quoi on installe une application d'une source non vérifiée avec la possibilité d'activer cette option pour 7 jours ou indéfiniment. Et ensuite, on a encore un avertissement et ensuite on peut cliquer sur le bouton installer dans tous les cas. Donc désormais, la distribution d'une application en dehors du Play Store
est légèrement compliquée.
Légèrement, très léger. Donc je rappelle, ça veut dire que Google veut vraiment avoir le droit de vie et de mort sur toute application distribuée sur Android, avec les conséquences que ça a. On l'a déjà dans des pays démocratiques comme les États-Unis, où des applications se font bannir parce qu'elles déplaisent au gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire demain pour des applications qui visent des applications développées par et pour des minorités. Qu'est-ce que ça va donner pour des applications développées dans des buts militants? Je rappelle que Greenpeace se fait condamner à une amende en centaines de millions de dollars aux États-Unis. Qu'est-ce que ça va donner pour les applications de ces associations-là?
Il y a les élections importantes en France en 2027. Un point sur l'agenda, je ferai court avec la permanence autour du logiciel libre, donc de l'association Chez Lux au Café Citoyen. Ce sera donc mardi 31 mars à partir de 20h avec des boissons bio et équitables au Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux à Lille, métro République Beaux-Arts.
Petite dev le 2 avril, senior, et après ce sera à Wascal à 6h45. Petitedev.fr.
Et ce sera où?
Alors, AXA, 4 allées du Château Blanc, 59 290, Wascal, France.
Merde. Précise France, ouais, c'est important.
C'était donc le 295e numéro de l'Écho des Gnous. Marie, merci d'être revenue en deuxième semaine.
Merci
tu ne reviendras pas dans deux semaines. Alors, il n'y aura probablement pas d'émission. Je pense qu'on fera une pause, Pascal, Pierre.
Ah non, moi c'est Pierre, oui, c'est pas Pascal.
Une pause vacances.
Ouais, par contre, non, mais je vais peut-être encore refaire un truc sur le langage programmation Pascal, du coup, moi. C'est temps.
Marie, on ne te revoit pas dans 4 semaines, puisque tu seras reparti en Suède.
J'espère revenir un jour, peut-être en juin.
Parce que je voulais dire, tu es évidemment la bienvenue. Et si quand on fait émission, donc au mois de juin, et puis après juillet-août, habituellement, bon, on ne fait pas émission. Donc à la rentrée, en juin et à la rentrée. Donc à chaque fois que tu reviens parmi nous.
Ou même s'il y a des questions, de manière générale, hein, les auditeurs peuvent envoyer des questions. Même si toi tu récoltes des questions à d'autres conférences et que tu ne peux pas venir les poser, donc ça ne pose pas de problème en tout cas de les poser. Et puis après. De manière générale, si les gens ont des suggestions de contenu, de thèmes à aborder ou autre, n'hésitez surtout pas, on n'a jamais été fermé à la moindre
N'hésitez pas, mesdames, je les ai contactés et j'ai pas eu de problème.
On ne mord pas.
Voilà, ils ne mordent pas, ils sont
civilisés.
On m'a appris.
Si une fois, mais c'était vraiment il y a très longtemps.
Vous pouvez les contacter si vous êtes passionné de libre et que vous avez un sujet, ben pourquoi pas.
On rappelle l'adresse mail quand même de contact.
Ouais, ça peut être bien. C'est edg@htinux.org.
Et ça marche puisque tu nous as contactés
par un simple email.
On reçoit bien les mails. Ou vous pouvez aussi laisser un petit message et un petit commentaire hein, sur le podcast.
On essaye de studio, les lire.
Non, mais c'est bien pour des gens qui font de la radio, qui font de la radio. On essaie de toujours remonter, c'est bien. Donc, rendez-vous dans 4 semaines à 19h, donc sur Radio Campus 106,6 et sur campuslille.com. On sera donc le dimanche 19 avril, tout de suite, où on vous laisse avec Chupa Pimento et de la musique électro. Bonne soirée, bonne fin de week-end à toutes et à tous.
L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des glous.